Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. Bonjour, c'est Béatrice. Qu'est-ce qui porte des habits de papier, un chapeau en mie de pain et qui s'est rendu célèbre grâce à son nez? Eh oui, c'est Pinocchio. Nous avons tous en tête les images du film de Walt Disney, daté de 1940. Mais qu'en est-il de la véritable histoire? L'histoire originale de Pinocchio date de 1881. Elle a été écrite par un journaliste florentin qui disait ne pas aimer les enfants. Saviez-vous que la célèbre fée bleue est d'abord une enfant morte qui attend son cercueil? Que sa femme de chambre est une énorme limace? Que la prétendue baleine est en fait un requin asthmatique? Suivez-moi en Toscane à la découverte de la version originale de Pinocchio. Le créateur de Pinocchio ne s'appelle pas Geppetto, mais Carlo Collodi. Pour être plus précis, son nom de naissance est Carlo Lorenzini. Il est né à Florence en 1826. Dès l'âge de 3 ans, il est confié à son oncle, qui habite dans un village non loin de là, au pied des Apennins, Collodi. C'est en souvenir de ce village qu'il choisit le pseudonyme qu'on lui connaît. Adulte, Carlo Collodi quitte rarement sa Toscane natale. Il est passionné de théâtre. Et il a un petit défaut. Il est joueur. Il joue et il s'endette. C'est pour rembourser ses dettes de jeu qu'un ami éditeur lui propose d'écrire des feuilletons pour son magazine destiné aux enfants, Il Giornale dei Bambini. Carlo Collodi a presque 50 ans lorsque, un peu à contre-cœur, il invente son personnage. Pinocchio, savez-vous d'où vient ce nom? Pinolo, dirait-on dans la langue italienne d'aujourd'hui. Cela signifie « pignon » dans le dialecte toscan. Le fruit du pin parasol, cet arbre qui couvre les terres de Toscane près de la côte. Voici pour commencer le récit de la naissance de Pinocchio. Quand Geppetto eut découvert un nom pour son pantin, il commença à travailler avec courage. Rapidement, il fit les cheveux, le front, et les yeux. Les yeux terminés, imaginez la stupéfaction de Geppetto en s'apercevant que ses yeux remuaient et le regardaient fixement. En se voyant fixé par ses deux yeux de bois, Geppetto fut sur le point de se trouver mal. Il s'écria avec un accent sévère. « Vilains yeux de bois, pourquoi me regardez-vous ? » Remarquons que dans le mot « Pinocchio », il y a « occhio », qui signifie « l'œil ». Pinocchio observe son créateur à l'ouvrage. Y aurait-il quelque chose à interpréter? Je ne sais pas si Carlo Collodi a pensé à toutes ces symboliques. Le fait est que ce petit pignon, qui dans son imaginaire d'auteur avait pris place d'emblée parmi les personnages de la Commedia dell'arte, a connu un succès inespéré. Tant et si bien que sous la pression de son éditeur et de ses lecteurs, Carlo Collodi, après avoir fait mourir pendu sa marionnette, dans l'intention d'achever son histoire, se voit dans l'obligation de reprendre la plume, toujours un peu à contre-cœur, pour inventer une suite et continuer d'imaginer les aventures de Pinocchio. Les mensonges, mon enfant, sont vite découverts, dit la fée. Il y en a deux espèces. Les uns qui ont les jambes courtes et les autres qui ont le nez long. Les tiens sont justement de ceux qui ont le nez long. Il est clair que la fantaisie de Carlo Collodi nous invite à chercher une lecture seconde. Un mensonge aux jambes courtes. Qu'est-ce que cela peut bien être? Pour ce qui est du mensonge au nez long, Pinocchio est peut-être à même de nous aider à comprendre. Dans ce livre de Collodi, le nez de Pinocchio s'allonge à deux reprises. La première fois, il n'a pas encore de bouche. Geppetto est en train de sculpter son nez qui, au fur et à mesure, s'allonge. Mais de quel mensonge s'agit-il ici? Peut-être simplement qu'il y a confusion entre le vrai et le faux, entre l'animé et l'inanimé. Tiens, le mot « animé » est composé du mot « âme ». Les yeux du bout de bois qui observe Geppetto sont-ils vivants? Ont-ils une âme? Où se trouve la vérité? La seconde fois que le nez de Pinocchio s'allonge, c'est lorsque la fée demande à Pinocchio où sont les écus d'or. Pinocchio ne veut pas dire à la fée qu'il les a cachés dans sa bouche. Il dit alors qu'il les a perdus. Puis qu'il les a perdus dans la forêt. Puis il s'embrouille et dit qu'il les a avalés. Et voici ce qui arrive. À ce troisième mensonge, le nez de Pinocchio s'allongea d'une façon si extraordinaire que le malheureux ne pouvait plus se retourner d'aucun côté. En se tournant à droite, son nez tapait dans le lit ou dans la fenêtre. En se tournant à gauche, c'est dans la porte de la chambre que le nez battait. S'il essayait de lever un peu la tête, il risquait de crever l'œil de la fée. Un mensonge au nez long. C'est peut-être celui dans lequel on est voué à s'empêtrer. Et Pinocchio ne cesse de s'empêtrer au fil de ses mésaventures. Toute son histoire retrace en quelque sorte son parcours d'une impasse à l'autre. La faim, la convoitise, la paresse. L'impasse par excellence étant évidemment la mort. On n'est pas loin de la question de départ qui consiste à se demander où est le vivant et où est l'âme. Ce qui diffère de la première fois où le nez s'allonge, c'est la conscience. Incarné par le grillon parlant. N'en déplaise à Monsieur Disney, Pinocchio ne lie pas la moindre amitié avec le grillon parlant. Et lorsque ce dernier ose le traiter de tête de bois, le pantin se met en colère, prend un maillet sur l'établi et le jette contre lui, l'écrasant littéralement contre le mur. La cruauté de l'écriture de Carlo Collodi est comparable à celle que l'on trouve dans les plus terribles contes. Je voudrais vous lire ici un extrait du chapitre qui devait initialement conclure ce livre. Pinocchio est alors poursuivi par deux brigands qui veulent voler les écus d'or cachés sous sa langue. Après avoir poignardé Pinocchio dans le dos, comme son bois résiste, il décide de le pendre à un chêne et de revenir le lendemain lorsqu'il sera mort. Un vent impétueux s'est élevé du côté de l'ouest, qui, soufflant avec rage, balançait dans tous les sens le malheureux pantin et l'agitait comme le battant d'une cloche pour sonner une fête. Ce balancement causait à Pinocchio des convulsions terribles, tandis que le nœud coulant serrait de plus en plus sa gorge, au point de lui enlever la respiration. Peu à peu, ses yeux s'obscurcirent, mais tandis qu'il sentait la mort approcher, Il ne désespérait pas de voir, d'un instant à l'autre, survenir quelques mains charitables, lui apporter le salut. Lorsque, après une longue attente, il constata que personne n'approchait, l'image de son pauvre papa lui revint à l'esprit, et il balbutia, presque mourant. « Oh, mon papa, si tu étais ici !» Et le souffle lui manqua pour continuer. Il ferma les yeux, ouvrit la bouche et resta comme engourdi. Ainsi finissait la première version des aventures de Pinocchio. Mais un pantin de bois, cela ne meurt pas, n'est-ce pas ? Pressé par son éditeur, Carlo Collodi accepte de continuer son histoire et fait intervenir un personnage qui va désormais prendre sa pleine valeur symbolique, la fée bleue. Avant de mourir pendu, Pinocchio en fuite avait cherché à se réfugier dans une chaumière. Tandis qu'il frappait à la porte, apparut à la fenêtre une belle jeune fille aux cheveux bleus. Voici l'extrait. Son visage était blanc comme de la cire. Ses yeux étaient clos et elle avait les mains croisées sur la poitrine. Sans même remuer les lèvres, elle dit avec une toute petite voix qui semblait venir de l'autre monde. « Dans cette maison, il n'y a personne. Tout le monde est mort. »«
Ouvrez-moi du moins, vous !» s'écria Pinocchio en pleurant.
« Je suis morte, moi-même. »«
Morte? Mais alors, que faites-vous à la fenêtre ?»«
J'attends le cercueil qui va m'emporter. » Cette figure féminine, d'abord créée pour annoncer la mort de Pinocchio, va devenir pour la suite de l'histoire une sœur, un ange gardien, une fée et pour finir, une mère. Bienveillante, mais sévère et intraitable, elle inflige à Pinocchio les épreuves qui jalonneront désormais son évolution initiatique. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse. Il semblerait que cette figure de femme soit directement inspirée par une grande amie de l'auteur, George Sand. Dans son livre sorti en 2003 et intitulé « Le secret de Pinocchio », Jean Perrault mène l'enquête. L'admiration que voue Carlo Collodi à George Sand, féministe passionné et engagé pour la cause italienne, n'est pas indifférente à l'invention de ce personnage de la fée, dans lequel s'incarnent toutes les figures de la femme. Cette femme mystère et multiple fait écho à toutes les formes que prend Pinocchio dans le livre. D'un simple bout de bois bon à jeter au feu, il devient un pantin dès lors que Geppetto voit en lui un pantin. Il devient écolier lorsque son père voit en lui un écolier. Plus tard, quand on lui demande d'être un chien de garde, il devient un chien de garde. Lorsqu'un pêcheur le remonte dans ses filets et le prend pour un poisson, il manque de se faire frire pour être mangé. Un nez qui grandit, des oreilles d'âne qui poussent, Pinocchio n'a pas de forme définie. Il est une composition hétéroclite. En tant que marionnette, il est censé être malléable, docile, manipulable. En somme, il n'a pas vraiment d'identité. Ce sont les événements qu'il va traverser qui vont peu à peu lui permettre d'assimiler les valeurs d'une société adulte pour faire les bons choix et trouver sa place. Oh là là, voilà Monsieur Collodi bien moralisateur. Pinocchio rêve de devenir un enfant
un adulte. Il est vrai que Carlo Collodi n'aime pas les enfants, mais si son message était tout autre. Pourquoi Pinocchio ne parvient-il pas à grandir comme le voudrait Geppetto ou la fée? Pourquoi, lorsqu'il prend des résolutions, ne parvient-il pas à s'y tenir? Est-ce une incapacité? Un refus? Une impossibilité? C'est le thème développé par Carmelo Bene en 1980 dans son adaptation de Pinocchio au théâtre. Son Pinocchio reste de bois jusqu'à la fin. Il refuse d'écouter les recommandations des adultes. Les adultes ne cherchent qu'à figer les enfants, à réprimer leur vie débordante pour finalement les initier à la mort. La mort, la vie, on est bien au cœur de la problématique de Collodi. Devenir humain, pleinement humain. C'est bien la question que pose Carlo Collodi, au-delà du désir de devenir enfant ou même adulte. Nous en arrivons donc à l'enjeu qui sous-tend cette histoire. C'est là précisément le point de vue de Steven Spielberg pour son film intitulé « Intelligence artificielle » et sorti en 2001. Vous vous souvenez? Dans la société du futur, le petit David est un enfant robot confié à un couple pour combler son besoin affectif. Lorsque le couple n'en a plus besoin, David est naturellement abandonné dans une forêt où les androïdes sont d'ordinaire jetés à la casse. Mais un robot ne meurt pas. La quête de David va au-delà de son désir de devenir un enfant. Sa quête ultime, c'est retrouver la mère. Et plus fondamentalement, retrouver l'amour. Retrouver son père. Retrouver sa mère. L'histoire de Pinocchio se résume en définitive à la mise en perspective de notre identité. Sommes-nous les marionnettes de notre société, de notre filiation? Dans quelle mesure sommes-nous réellement vivants? Savons-nous repérer, refuser ce qui nous manipule, ce qui étouffe celui ou celle que nous sommes en vérité? La vérité. Le nez de Pinocchio n'a pas fini de pousser. Voyous, coquins, vauriens, galopins, fieffés filous, bougres de gamins. Voilà un florilège de la façon dont Collodi qualifie son petit pantin. Pinocchio dérange les enfants, dérange les adultes et continue aujourd'hui de bousculer nos soi-disant vérités. Je vous invite à lire ce livre et si vous en avez l'occasion, allez donc visiter le parc que la ville de Collodi a voué à son célèbre enfant du pays. Dans le jardin historique de la Villa Garzoni, des personnages conformes aux illustrateurs de l'époque prennent place dans l'incomparable élégance des décors de Toscane. Si vous souhaitez découvrir les images de Pinocchio depuis les premiers illustrateurs, dès la sortie des épisodes en 1881, venez visiter notre site intitulé « Tout avec presque rien ». Merci à Marie Michaud pour le mixage et les images de nos émissions. À bientôt.